Tendance première.
L'ennui, c'est que quelle que soit la façon dont vous le désannoncez, le disque, c'est vous traiter quelqu'un de petit con à un moment ou à un autre. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Notre séquence transition aujourd'hui, nous allons vous parler du poisson sans bicyclette avec Amandine et Louise qui nous ont rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors le poisson sans bicyclette, c'est Amandine et Louise, mais c'est plein d'autres femmes aussi derrière. Vous étiez trois là-bas, Amandine, sur ce projet.
Oui, au tout début, on était trois, mais en fait, le groupe a vite grandi. Et du coup, je crois qu'aujourd'hui, on est une petite trentaine, en fait. Donc voilà, c'est vraiment porté collectivement par toute une série de personnes.
La tête de proue de ce Poisson sans bicyclette, c'est le café féministe. Mais alors, avant d'en arriver là, évidemment, il y a eu pas mal d'aventures aussi. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont construites autour. Alors, le Poisson sans bicyclette, s'il fallait le définir aujourd'hui, ça serait quoi ?
Mais nous, on le voit vraiment comme un espace à la fois de rencontre, de résistance, d'expérimentation. Et du coup, c'est à la fois un café, mais bien plus parce qu'on organise des activités et parce qu'on a vraiment un objectif pédagogique aussi de sensibilisation, de déconstruction des rapports de domination qui structurent encore la société. Et du coup, quand on a voulu le créer, en fait, on est vraiment parti de certains constats que la société était encore traversée par des rapports de domination.
Oui, effectivement. Donc, à l'origine du poisson, il y a quand même un constat qui est politique. Donc, c'est voilà le constat que cette société, comme le disait Amandine, est traversée par beaucoup d'inégalités, beaucoup de rapports de domination. Voilà, nous, on parle de la domination masculine dans le cas d'un café féministe, mais pas seulement. Il y a aussi des inégalités économiques, du racisme, de l'homophobie, de la transphobie. Une longue liste de types de domination qui sont subis par des groupes de personnes, tels que les personnes en situation de handicap, les personnes grosses. Voilà, la liste est longue. Et sans compter qu'il y a certaines personnes qui ont une position et un vécu qui vont les placer au carrefour de plusieurs oppressions simultanées. Et donc, à partir de ce constat, voilà, au Poisson, on tente vraiment de porter un féminisme qu'on définit comme multidimensionnel, pour reprendre un terme de la politologue Françoise Vergès. C'est-à-dire qu'on prend en compte le fait qu'on est toutes et tous situés dans ces systèmes de domination que je viens d'évoquer. Donc, soit dans le groupe dominant, soit dans le groupe dominé. Donc voilà, pour prendre notre exemple à toutes les deux, Amandine et moi, on est des femmes. À côté de ça, par exemple, on est blanches. On a fait des études supérieures toutes les deux. On est aussi des femmes cisgenres, c'est-à-dire qu'on est en accord avec le genre qui nous a été assigné à la naissance, donc le genre féminin. Et donc, de ce point de vue-là, nous, voilà, on accepte le fait qu'on est privilégiés. Et au sein du collectif, qu'il y a une diversité en termes d'oppression et de privilèges, ce qui en fait un collectif multidimensionnel.
C'est ça.
De ce point de vue.
Mais vous, qu'est-ce qui vous a... C'était quoi votre moteur à la base ?
Nous, personnellement ?
Oui.
Oui. Mais moi, je suis militante féministe depuis plusieurs années. Et je pense que j'avais envie de militer dans un endroit, un collectif qui me ressemble, qui porte des valeurs politiques, justement, qui sont peut-être plus, j'allais dire, plus actuelles, mais c'est pas vraiment ça. C'est, en fait, on se rend compte qu'il y a eu toute une vague. Des féministes en fait dominantes, dites de la deuxième vague, qui ont porté un féminisme qui se voulait universel, universaliste, mais qui en réalité servait les intérêts en fait de seulement un certain groupe de femmes. Et donc aujourd'hui, je pense que être féministe, c'est aussi prendre en compte justement, comme l'a dit Louise, l'ensemble des autres rapports de domination pour essayer d'être solidaire et de prendre conscience d'où on parle, justement pour pas reproduire d'autres formes de domination.
Dites-moi si je me trompe, mais je vous demanderai vos motivations à vous aussi, Louise, mais j'ai l'impression qu'entre mai 68 et cette période-ci que l'on vit depuis à peu près 5 ans, parce que MeToo a mis des choses en exergue, mais il y avait déjà de gros prémices avant MeToo, il y a eu un fossé où l'expression du féminisme ne s'entendait plus, n'était plus ou entendue, ou en tout cas ne s'exprimait plus de la même façon, et qu'aujourd'hui vous faites partie d'une génération de femmes qui trouver évident de s'exprimer sur le sujet, alors que les générations précédentes devaient encore se poser la question, est-ce que vraiment je vais le dire, si je suis féministe ou pas ? Ça, c'est un gros changement. Je ne sais pas si vous ressentez ça aussi par rapport à des générations plus anciennes.
Ben oui, je pense que encore dans les années 90, c'était un terme qui était assez mal vu, c'était presque une insulte.
Si vous disiez que vous étiez féministe, mais on vous mettait sur le côté. Voilà.
Oui, c'était vraiment pas un terme, je pense, qui était positif, hein, vu de manière positive. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'avec justement MeToo, Balance ton porc, il y a eu un peu un renouveau du féminisme. Alors, je pense qu'aussi l'enjeu, c'est de pas voir ça comme une mode ou juste une simple tendance. Je pense que c'est un... oui, c'est peut-être un tournant dans la façon dont les personnes vont vouloir s'impliquer, renverser justement les rapports de domination. Et c'est très chouette de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, de jeunes femmes. Mais... Parce qu'en fait, on n'est pas juste un café pour les femmes, on est aussi un café pour des personnes opprimées par le patriarcat. Mais donc, ça peut être aussi des personnes trans, des personnes non-binaires, gender fluid, qui ne se reconnaissent pas dans la binarité de genre. Et du coup, je crois que c'est chouette de voir cette réappropriation justement du féminisme par toute une série de jeunes personnes aujourd'hui.
Mmh. Louise, votre moteur, c'était quoi ?
Pour rebondir juste sur ce qui vient d'être dit, peut-être aussi qu'il y a eu cette période après les acquis de la deuxième vague qui ont un peu occulté le fait qu'il y avait encore des groupes de personnes qui restaient discriminées et qu'il y avait eu des acquis en termes de droits et que du coup il y a eu cette phase un peu de creux où on s'est dit que c'était peut-être ça y est,
bon. L'égalité en fait, était là quoi.
Revenir sur nos motivations personnelles, enfin je crois que ce qui est chouette au poisson et pour sortir de quelque chose d'un peu d'abstrait idéologique, on est aussi c'est aussi un espace au sein duquel il y a une sororité, donc une solidarité entre personnes opprimée par le patriarcat, qui est extrêmement forte, et donc où on se dit que c'est aussi un espace qui nous fait du bien, qui est bienveillant, qui est solidaire, où on fait la fête, où on prend soin les unes des autres et les uns des autres, et où ça, c'est quelque chose qui donne de la force vraiment au quotidien. Et donc il y a le message qu'on souhaite porter politique vers l'extérieur, et aussi comment est-ce que on crée un espace qui nous fait du bien au quotidien.
Qui permette de s'exprimer et d'être entendue et d'être comprise aussi dans son expression. Alors la question qui taraude tout le monde maintenant, c'est mais pourquoi le poisson sans bicyclette ?
D'où ça vient ?
D'où ça vient ?
C'est un slogan féministe qui dit « Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette ». Et c'est une féministe australienne, Irina Dunn, qui l'a créée suite à un cours de philosophie. Vous l'avez entendu, c'était « L'homme sans Dieu, c'est comme un poisson sans bicyclette ». Donc elle l'a détourné, je pourrais en faire un slogan féministe. Et du coup, ça a été réapproprié par féministes dans les années 70. Mm-hmm. Et c'est vraiment pour un peu casser cette idée de complémentarité homme-femme et de dire on est des personnes à part entière avec une individualité, avec une autonomie. Et on trouvait que le titre était un peu absurde, décalé, donc ça correspondait bien aussi un peu à l'esprit belge, un peu surréaliste. Et en même temps, c'est déjà une porte d'entrée justement vers le féminisme, parce que quand les gens nous posent la question, c'est l'occasion déjà d'entamer un dialogue justement sur c'est quoi le féminisme, pourquoi ce nom, etc.
Vous avez eu beaucoup d'événements qui se sont passés ces derniers mois. On va revenir sur comment s'est construit finalement ce café féministe.
10h midi. Véronique Thiberguien sur la première.
Le poisson sans bicyclette avec Amandine et Louise. Vous êtes combien à peu près aujourd'hui ?
Je pense qu'on est un peu moins de 30 personnes.
Oui, c'est ça.
De membres actifs, oui.
Vous fêtez vos 2 ans, là ?
En termes de constitution de la SBL, oui.
Ah oui, c'est un anniversaire ce mois de juin finalement. 2 ans qui vous ont vu évoluer aussi. Donc c'est un lieu, c'est un espace de rencontre, ce sont des événements. Mais j'imagine qu'au départ, tout ça n'était pas forcément prévu, c'était dans l'idée, mais il a fallu construire. Le lieu d'abord, comment vous l'avez trouvé ?
On cherchait un lieu dans un endroit qui soit... déjà, financièrement, on n'avait pas énormément de moyens. Donc, clairement, on ne pouvait pas se permettre un loyer très élevé. Et puis, en fait, on a été toqué à plusieurs portes dans des communes. Et on a été accueillis, finalement, par les chefs de l'égalité des chances et la coordinatrice de la Maison des Femmes de Scarbet, qui nous ont tout de suite... dit « mais venez occuper notre estaminet, pour le moment il est libre ». Et en fait, on trouvait que c'était un très chouette lieu, parce que c'est dans la Maison des Femmes de Scarbec. Il y a déjà toute une série d'activités qui sont organisées en journée. Et nous, on est arrivé avec une programmation qui était finalement assez complémentaire, plutôt en soirée, on ne touche pas exactement le même type de public. Et du coup, là, c'est depuis septembre 2017 qu'on y est. Et c'est un endroit. Alors les gens disent ah c'est loin, Schaerbeek, mais je trouve que c'est surtout une barrière psychologique parce que finalement c'est pas si loin.
Qu'est-ce qui n'est pas loin ? Enfin je veux dire par rapport, il y a toujours par rapport à quelqu'un, ça sera trop loin.
Oui voilà c'est ça. Mais c'est pas central, mais c'est quand même très accessible en transport en commun. Et puis en fait il y a quand même beaucoup de gens qui viennent à nos activités, donc c'est la preuve que ça va quoi. C'est pas l'autre bout.
Des événements qui se sont organisés très rapidement aussi. Alors ces événements, ils sont de différentes natures. Hein. Ça va des discussions sur des thématiques, à des expositions, des choses comme ça. Il y a un côté à la fois militant mais culturel aussi.
Oui, tout à fait. Donc nos activités, c'est on dit que c'est des activités socioculturelles et pédagogiques en même temps. Et donc on a organisé par exemple un projet un peu phare cette année, enfin en 2018-2019, qui portait sur les masculinités, pardon, où c'était vraiment pour déconstruire un peu la masculinité dominante hégémonique. Et donc c'est un groupe d'hommes qui ont pris part à des ateliers, qui ont réfléchi à c'est quoi être un homme aujourd'hui, comment justement pouvoir être un allié de la lutte féministe, lutter contre les violences machiste. Et du coup, il y a eu le résultat de ça, c'est un recueil de textes. Il y a eu toute une série de photos aussi qui a donné lieu à une exposition en janvier-février.
Mais donc, il y a des hommes qui participaient.
Oui, oui. Donc, dans le cadre de ce projet-là, c'était un groupe d'une dizaine d'hommes.
Oui.
Et de manière générale, les hommes sont les bienvenus aussi dans le café, s'ils n'ont pas de comportement précis, évidemment, on y est vigilant aussi. Mais donc, oui, le public est mixte dans le café. Ouais.
C'est important de le préciser parce que souvent, les hommes ont tendance à se sentir exclus des groupes de femmes, alors que je connais beaucoup de groupes de femmes qui sont mixtes, justement, pour ne pas créer un gap supplémentaire, une scission supplémentaire, alors que les alliés sont tous les bienvenus.
C'est dur. Oui.
Alors nous, faut savoir qu'aux Poissons sans bicyclette, même en interne, on est une organisation mixte, c'est-à-dire que les hommes peuvent participer, y compris les hommes cisgenres. En réalité, il y a une personne qui est concernée par ça. Faut savoir que quand on ouvre, en fait, il y a pas forcément non plus une masse d'hommes qui est super intéressée de participer. Mais au-delà de ça, nous, on considère que la non-mixité peut aussi être une forme d'organisation très intéressante. Notamment parce que ça permet de se concentrer sur les enjeux qui traversent un groupe vraiment spécifique et qu'on perd moins de temps à expliquer et essayer d'inclure des personnes. Je ne sais pas si tu veux rajouter...
Oui, c'est ça. En fait, nous, certes, on a un groupe mixte, mais on soutient justement aussi les initiatives de non-mixité parce qu'on pense que c'est toujours dans un terme de moyens, donc c'est pas qu'on vise dans la société vivre en non-mixité, mais c'est vraiment un outil d'émancipation qui peut être utile à certains moments, parce que justement on peut perdre aussi beaucoup d'énergie à se sentir légitime, à devoir expliquer à des personnes qui ne vivent pas en fait ces oppressions-là que c'est important. Et donc voilà, je crois que les deux sont vraiment importants et utiles.
Tant qu'on en est à parler de la carte d'identité un peu et du profil du Poisson sans bicyclette, est-ce que pour une commune qui est super multiculturelle comme Schaerbeek, vous avez réussi à intégrer et à avoir un groupe multiculturel aussi ?
Alors, au niveau de la multiculturalité, en fait, on est vigilante surtout aussi à d'où on parle. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a, beaucoup de personnes blanches au sein du collectif. Mm-hmm. Il y a aussi des personnes racisées. Mais on ne veut pas non plus être dans une forme d'instrumentalisation, se dire « Ah, il faut qu'on ait à tout prix une mixité ». On pense que c'est aussi en partant de nos propres... privilège en tant que personne blanche de se remettre en question, qu'on en fera un espace peut-être plus sécurisant, plus safe, c'est un terme un peu militant, pour que des personnes dites racisées donc viennent nous rejoindre. Et donc on a une mixité et évidemment la porte est ouverte, mais on pense qu'on doit aussi faire un travail interne pour remettre en question ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter.
Oui, donc effectivement, le groupe est mixte, donc il y a des personnes racisées, il y a aussi une diversité en termes d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Mm-hmm. Et donc il y a une représentation aussi.
C'est ça, assez représentatif.
La communauté LGBT plus. Et aussi au sein du Poisson, il y a la possibilité de créer, donc on parlait de non-mixité, et effectivement l'organisation est mixte globalement. Au sein du Poisson, on pense aussi que ça peut être important pour des personnes minorisées, de s'organiser entre elles. Et donc, par exemple, de créer des petits groupes de travail, des groupes de travail entre personnes racisées, entre personnes transgenres, et qui pourraient ensuite rapporter des éléments au plus grand groupe et se renforcer entre elles. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie, en théorie, de la manière dont on souhaite s'organiser.
C'est ça. Vous fonctionnez en ASBL, mais chaque personne qui fait partie du poisson sans bicyclette a une voix à donner et à exprimer. Il n'y a pas une hiérarchisation, et ça, c'était aussi une grosse volonté.
Oui, en fait, on est vraiment un café autogéré et on se base sur des principes de gouvernance partagée. Oui. C'est-à-dire qu'on essaye que l'organisation, la prise de décision soit les plus horizontales possibles. C'est pas évident parce que je pense qu'on n'est pas habitué à ça et ça demande pas, enfin, de vraiment déconstruire pas mal de manières de fonctionner, même inconscientes. Et pour ça, on a été accompagné par un collectif qui s'appelle, une ASBL qui s'appelle Collectiva, qui nous a vraiment accompagnés dans cette réflexion à la fois sur le modèle qu'on voulait justement pour le poisson sans bicyclette, mais aussi sur vraiment des outils concrets qu'on pourrait utiliser d'intelligence collective lors de nos réunions, dans nos façons de fonctionner en fait au quotidien. Et du coup, c'est une expérimentation. Je pense qu'il y a des moments où c'est pas facile, mais c'est aussi très très riche parce que vraiment on essaie de donner effectivement la même place finalement à chaque personne qui fait partie du collectif. Quoi.
Comment on peut vous rejoindre? On toque à la porte, on rentre, on dit bonjour.
On peut nous contacter, effectivement venir à un événement, discuter aux personnes présentes. Bon, là, on ferme pour l'été, mais on sera de retour à la rentrée.
Oui, parce que c'est plein de vacances aussi. Pas de raison.
C'est important. Mais sinon, on peut nous envoyer un mail, on peut nous contacter sur Facebook, sur Instagram. Il y a plein de vecteurs et on répond, donc faut pas hésiter.
Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore noté, que vous êtes à la Maison des Femmes de Schaerbeek, qui se trouve rue Josaphat à Schaerbeek. La collaboration perdure, parce que comme il y a des changements politiques et de ce genre de choses, et que vous aviez quand même un lien, là ça va, vous êtes quand même confirmé dans votre local et dans votre projet.
Oui, oui, tout à fait. On a un vrai soutien de l'actuelle échevine de l'égalité des chances, de l'équipe de la Maison des Femmes, du collège en général de Schaerbeek. Je pense qu'ils voient vraiment aussi la plus-value de ce genre de projet au sein de la commune. Et donc oui, la collaboration perdure pour la rentrée prochaine.
Vos projets pour la suite, comment allez-vous encore évoluer et éventuellement grandir?
Là, par exemple, on a eu un subside sur le titre, c'est de l'intime aux politiques, construire un regard féministe sur les corps et sexualité. Mm-hmm. Et donc ça, c'est un des projets qu'on va amener à partir de la rentrée sur toute la saison. Et en fait, la particularité de la plupart des projets, c'est qu'ils sont vraiment aussi réfléchis, discutés, amenés vraiment par les membres de certaines bulles qu'on appelle bulles, c'est des sous-groupes. Ouais. Donc on n'a pas vraiment expliqué concrètement comment on fonctionnait, mais en fait il y a des sous-groupes qui gèrent chaque fois un pan du projet. Et donc il y a un sous-groupe qui s'appelle la bulle socioculturelle, qui gère la programmation. Il y a un groupe qui s'appelle la bulle bibliothèque, parce qu'on a aussi une petite bibliothèque féministe. Et donc vraiment au sein de ce groupe, en fait, à la fois en fonction des envies, des opportunités, des enjeux qu'on juge importants, ça va être discuté et puis il y a des activités qui vont être mises en place. Donc à la fois, il y a ce projet qui se profile, mais c'est aussi très libre parce que justement, ça vient vraiment du groupe, toutes les idées et les types d'activités qui sont organisées.
Vous êtes heureuse dans ce projet aujourd'hui?
Oui.
Il prend les formes que vous aviez imaginées, l'envie, la concrétisation, rencontrer l'envie aujourd'hui?
Mais c'est pas toujours facile parce que justement, c'est une remise en question aussi permanente, mais c'est très riche parce que je trouve que il y a un challenge et on essaye chaque fois de vraiment collectivement identifier là, il pourrait y avoir encore des problèmes, des tensions et de s'améliorer. Et globalement, moi, je trouve qu'il y a une belle solidarité, vraiment une bienveillance au sein du groupe. Et c'est aussi très important parce que c'est dur de militer, il faut le dire aussi. Et donc, il y a toute la notion de qu'on appelle le self-care, vraiment prendre soin de soi. C'est très important. Et donc, ça aussi, on essaie de le mettre vraiment au centre du projet.
C'est très dur pour des femmes d'aller encore dans les rues. Il faut parfois, avec toute la mesure, évidemment, que l'on peut mettre avec les réseaux sociaux, mais à la suite de manifestations féminines, et notamment celles qui se sont déroulées en Suisse récemment, c'était intéressant d'aller voir les forums et les réseaux sociaux où les femmes disaient qu'elles s'étaient encore faites insulter parce qu'elles manifestaient dans les rues. On n'insulte pas les ouvriers qui manifestent dans les rues. Les femmes, oui, surtout si c'est pour un combat féministe. Et ça, en 2019, je pense que ça reste encore aberrant et il faut encore le signaler. Louise, Amandine, on vous souhaite tout le meilleur. Merci. Tiens, que le poisson sans bicyclette continue de tourner sans bicyclette et que ce banc de poissons s'étoffe encore, de poissons, pardon, et de poissons aussi, s'étoffe encore un peu plus. Et pour en savoir plus, vous allez sur le site lepoissonsansbicyclette.be. Ils seront notés d'ailleurs les prochains rendez-vous dès septembre, puisque petite saison d'été oblige, petite pause pour tout le monde. Et on reprend avec les batteries rechargées dès le mois de septembre. Merci à toutes les deux.
Merci.
Belle journée.
Merci.